Puisque Sergio nous l'a rappelé, on est après Noël. Et dans nos crèches, après Noël, on voit arriver les mages. Donc, je vous propose d'étudier un petit peu l'histoire des mages. Et pour l'étudier, la première chose, c'est de lire cette histoire qui nous est racontée dans le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 2. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Donc il cite là le livre de Michée. Alors Hérode fit appeler en secret des mages, il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. » Un texte bien connu. On va s'en rappeler dans quelques années, dans quelques jours, je veux dire, quand on va manger la galette des rois. Hein? Pourquoi est-ce qu'on mange la galette des rois? À cause des mages. Celui qui a la fève reçoit la couronne. Mais vous voyez que dans cette tradition, on est bien loin du texte original. Il y a quelques années, j'ai entendu un chant. C'était, je crois, au cours d'une pièce de théâtre. Et un chant où les enfants qui chantaient disaient « Il n'était pas trois, il n'était pas roi ». Un chant sage. Je crois d'ailleurs que dans cette pièce de théâtre, Michel Molière devait jouer. Un chant sage qui nous rappelle que nous ne devons pas rajouter des choses à la parole de Dieu. Parce qu'on en a rajouté des choses. On les a fait rois, ces mages. Alors que le texte ne nous dit pas qu'ils étaient rois. Il nous emploie simplement le mot mage, savant, sage. Et puis leur nombre. Rien ne nous dit qu'ils étaient trois. Il y a trois cadeaux. Alors, peut-être on a pensé qu'ils étaient trois, mais ils peuvent être deux à s'être cotisés pour offrir le même cadeau, ou offrir à plusieurs le même cadeau. On leur a même donné des noms. Ce qui est triste, c'est que quand on rajoute des choses à l'Écriture, on en enlève sa simplicité. On l'oublie que si Dieu ne nous a pas donné d'autres précisions, c'est parce que nous n'en avons pas besoin. Nous avons assez pour nous avec le peu de détails que nous avons. Je vous invite donc à considérer ce que nous avons dans le texte, hein, et notamment à regarder les deux groupes de personnages qui sont dans ce texte que nous avons lu. Le groupe des mages, et le groupe formé par Hérode et ses conseillers. Voilà, pour me venger de la tradition sur le dessin, j'en ai mis cinq. Mais allez pas dire après que non, ils n'étaient pas trois, ils étaient cinq. On n'en sait rien. Donc voyons les mages. D'où viennent-ils ? D'Orient. C'est quand même assez vague, hein, comme expression. Est-ce que c'était Babylone, l'Inde, la Chine, d'Orient? Par contre, le terme employé, mage, et la mention de l'étoile qui suit, nous désigne des savants de l'époque, qui scrutent les étoiles. Et la plupart du temps, ces astrologues faisaient ça dans deux buts principaux. Le premier qui était d'établir des calendriers, et le deuxième but qui lui était interdit par la loi de Moïse pour tenter de prédire l'avenir. Comment est-ce qu'ils ont discerné, ces mages, que cette étoile, qu'ils semblent d'ailleurs être les seuls à voir, annoncer la naissance du roi des Juifs? Mystère. Cela nous montre que, en dehors du peuple juif, il y avait des gens d'autres peuples qui connaissaient le Dieu des Juifs et qui savaient des choses. On en trouve dans notre Bible. Melchisédek, Job, Jéthro, le beau-père de Moïse, des personnes qui ne font pas partie du peuple de Dieu, et puis pourtant à qui Dieu a parlé. Et puis plus tard, juste après la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus, l'eunuque éthiopien que Philippe va retrouvé dans le désert. Hein? On trouve ça dans le livre des Actes, l'acte 8. Hein? Pourquoi est-ce qu'un eunuque éthiopien était venu à Jérusalem? Parce que en dehors du peuple juif, Dieu était connu par d'autres peuples. Comment? Par quel moyen? On ne sait pas. Job, lui, il nous dit, on trouve ça Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Avec ça, on n'est pas bien renseigné. Les mages, eux, ils savent des choses et ils en ignorent d'autres. Ils semblent assez bien renseignés sur un point, il faut qu'ils suivent cette étoile. Et cette étoile leur annonce la naissance du roi des Juifs. Par contre, ils ne savent pas où est-ce qu'elle va les mener. Donc, ils se renseignent et on leur donne cette prophétie de Michée qui leur dit « C'est à Bethléem ». De nos jours encore, Dieu parle à des peuples différents, à des personnes de peuples différentes. Moi, j'ai été frappé en lisant des témoignages de personnes d'Afrique, d'Africains, ou de personnes d'Inde, de voir la fréquence avec laquelle Dieu parle par des songes. Ce qui est peut-être pas très fréquent chez nous, enfin je veux dire en Europe. Et je me souviens de plusieurs livres où des personnes étaient persuadées comme ça, avaient une vision qu'ils devaient aller rencontrer une personne et lui demander une Bible. D'autres vont être persuadés en voyant l'ordre rigoureux des étoiles, comment ça fonctionne. Certains scientifiques sont persuadés en voyant l'ordre de la loi et les lois de la nature qu'un Dieu existe, qu'il faut le rechercher. Alors les mages qui savent peu de choses vont se renseigner. Et ils arrivent à Bethléem, devant Jésus et sa mère. Là, ils se prosternent et ils adorent. Ce qui nous montre qu'ils savent encore une chose. Ils savent que ce roi des Juifs, c'est pas que un roi. C'est aussi un Dieu. Et donc, arrivés là, ils ouvrent leur trésor. Et ils offrent trois cadeaux. L'or, l'encens et la myrrhe. Alors on a essayé de comprendre un peu pourquoi ces trois cadeaux. Certains ont dit l'or, c'est ce qu'on offre à un roi. L'encens, c'est ce qu'on offre à un dieu. Et la myrrhe, c'est ce qu'on offre à quelqu'un qui va mourir. Parce que ça sert à embaumer les corps. Qu'est-ce que les mages ont compris? Qu'est-ce qu'ils ont saisi sur la personne de ce bébé, sur son avenir, sur ce qu'il attendait? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont ouvert leur trésor et qu'ils ont donné des cadeaux qui, à nous, parlent, à nous, ont une signification. Les mages, donc, représentent ceux qui n'ont qu'un éclairage partiel, qui se mettent en marche, qui veulent chercher plus loin, qui font confiance à Dieu et qui ainsi, de cette façon-là, vont s'insérer dans le plan de Dieu. Il en va tout autrement de Hérode et de ses conseillers. Ce groupe-là, c'est pas n'importe qui. Hérode, c'est le roi. Nos Bibles nous donnent d'Hérode un tableau assez négatif. Hérode était un roi qui avait été imposé par les Romains. Lui-même n'était pas juif. C'était un descendant d'Ésaü. Un édomite. Pour se concilier les bonnes grâces des juifs, il s'était marié avec une juive et Il avait été imposé par les Romains. Mais contrairement à ce que l'éclairage négatif de la Bible, c'était pas un mauvais roi. C'est quelque chose qui a fait des choses bien pour le peuple. Et notamment, qui a embelli le temple. Mais c'est vrai que dans ce passage, il a un rôle tout à fait négatif. Alors il est là, et puis il a comme conseiller les chefs des prêtres, les spécialistes des Écritures saintes. Pas simplement un ou deux, si vous avez bien vu ce qu'on a lu, tous ceux qui se trouvaient là, il les a appelés autour de lui. C'est ceux qui avaient pour mission de guider le peuple, d'être des modèles dans la façon dont on suivait la loi de Dieu. Eux, ils savaient beaucoup de choses. Ils avaient été avertis puisqu'ils connaissaient les Écritures. Ils savaient que les prophètes avaient annoncé la venue du Messie. Et quand le grand roi Hérode les interroge, tout de suite, ils peuvent dire, ben voilà, le Messie, il doit naître à tel endroit, à Bethléem. Ils savent, mais ils ne croient pas. Ils savent, mais ils refusent. Ils savent, mais ils refusent de changer leur façon de vivre. On aurait pu s'attendre à ce que ces sages, en disant « Ah ben, enfin la prophétie semble bouger, on va aller voir !» Notre Messie que nous attendons depuis 6-7 siècles, depuis que Michée, depuis que Ésaïe avait parlé, il semble qu'il arrive. Ça vaut le coup de se déplacer. Jérusalem à Bethléem, c'est pas bien loin. Ils savent, mais ils ne bougent pas. Et puis plus loin, on a vu qu'ils savent, mais ils s'opposent. Ils veulent bloquer le plan de Dieu. Dans notre monde aujourd'hui, comme dans celui d'hier, il y a des gens qui s'imaginent qu'ils peuvent bloquer le plan de Dieu. Il y a des gens, par exemple, comme Hitler, qu'il pense pouvoir exterminer un peuple que Dieu a choisi. Un peuple dont l'apôtre Paul nous laisse entendre qu'un jour ils se convertiront tous. Mais il se croit plus fort. Il dit, moi, je vais m'opposer à ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont suffisamment costauds pour s'opposer à la sagesse de la création de Dieu, qui a fait des garçons et des filles. Et qui veulent enseigner que non, il n'y a pas des garçons et des filles, il y a des gens, on peut passer de l'un à l'autre. Plus près de nous, il y a des gens que nous connaissons bien, qui connaissent la vérité de la parole de Dieu, qui ont été enseignés, et qui s'estiment suffisamment intelligents pour mépriser cette révélation et pour vivre en tournant le dos à Dieu. Et on voit dans ce texte que lorsqu'on tourne le dos à Dieu, cela peut produire des catastrophes. Ce roi Hérode qui est là pour veiller sur son peuple, voilà qu'il en devient le bourreau en faisant tuer tous les enfants, tous les garçons en dessous de 2 ans. Et pour bien faire son massacre, il utilise des renseignements que les mages lui ont donnés. À partir de quand on va faire tuer les enfants ? Ah, les mages m'ont dit que c'est à partir de telle date. On voit donc qu'il y a bien 2 groupes de personnes. Ceux que leur petite science, leur petite connaissance rapproche de Dieu, car ils ont conscience qu'ils en savent peu et qu'il faut en savoir davantage. Et ceux dont la petite science, la petite connaissance les détourne de Dieu parce qu'ils croient tout savoir. Cher ami, à quel groupe appartenons-nous ? À ceux qui sont prêts à apprendre, à se laisser changer, à donner leur confiance, à donner de leur personne, de leur temps, de leur bien ? Ou à ceux qui, tout en connaissant la volonté de Dieu, n'ont confiance qu'en eux-mêmes ? Jean, dans son évangile, parle de ces personnes-là. Jean 3, verset 19, il dit que la lumière était venue dans le monde. C'est une parole terrible quand on le lit. La lumière était venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et il nous dit pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour ne pas avoir changé de vie. Hérode, il avait surtout peur d'un roi qui allait lui prendre son trône. Il avait peur à tort, d'ailleurs, parce que Jésus n'a jamais revendiqué le trône ni de Hérode, ni de César. Et puis l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître, nous donne aussi une explication. Elle dit « Notre évangile, il est voilé pour certains. » Et s'il est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Qui est ce Dieu de ce siècle ? C'est pas un dieu, c'est une expression, mais ça devient un dieu pour ceux qui se laissent conduire par lui. Évidemment, c'est Satan, le diable, mais Satan, il ne s'exprime pas toujours de la même manière. Quand il dit le dieu de ce siècle, c'est que Satan, il a plusieurs façons de s'exprimer. Et selon les siècles, selon les époques, selon les gens, ils s'expriment de façon différente. Qu'est-ce qui caractérise le Dieu de notre siècle à nous ? La recherche de la liberté. La liberté débridée. Une recherche effrénée de tous les droits qu'on peut avoir en évitant soigneusement les contraintes qui vont avec. On le voit dans les réseaux sociaux, où sous couvert d'un pseudonyme, vous pouvez insulter n'importe qui, et personne ne vous dira rien. Le Dieu de ce siècle, c'est aussi la pseudo-certitude de la science. La science nous enseigne que... Il y a 10 ans, elle disait pas pareil. Dans 10 ans, elle dira pas la même chose. Mais aujourd'hui, vous êtes priés de croire ce que dit la science. Un autre Dieu de notre siècle, c'est l'humanisme. Il n'y a rien de mieux que l'homme. Pourtant, quand on le regarde agir, c'est pas brillant, l'homme. tout ce qu'il est capable de faire comme mal autour de lui. Et bien pourtant, il n'y a rien de mieux que lui, d'après l'humanisme. Et cela nous donne la religion de l'humanisme, la religion, l'homme étant une la référence ultime, et la religion de la laïcité, sous prétexte de permettre à chacun sa liberté de conscience, on en arrive à réprimer toute manifestation publique de la foi. Alors, quel est le pseudo-dieu qui aveugle les gens? Qui aveugle ceux qui sont autour de nous? Qui aveugle les incrédules? Mais qui peuvent aussi nous éblouir parfois? Et nous? Est-ce que nous sommes un mage? Ou est-ce que nous sommes le roi Hérode? Oh, c'est caricatural. On n'est pas aussi méchant qu'Hérode. On n'est pas aussi entreprenant que les mages, parce que ils ont certainement fait un long chemin avec beaucoup d'incertitudes quand même au départ. Mais quand même, est-ce que nous faisons partie de ceux qui connaissent peu mais qui font confiance à Dieu, qui veulent se prosterner devant ce Dieu, qui veulent servir ce Dieu, qui veulent ouvrir leur trésor, c'est-à-dire leur cœur à ce Dieu, ou est-ce que nous faisons partie de ceux qui n'en bougent pas, ne se laissent pas émouvoir, ne se laissent pas ébranler? Alors, faisons ce qu'aurait dû faire Hérode, ce qu'auraient dû faire les savants juifs. Vous savez ce qu'ils auraient dû faire? Non? Je vous le chante. Allons donc tous avec les mages porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Hein, c'est même une prédication en chanson, c'est pas beau ça? Acceptons humblement le peu de science que nous avons et que ce peu de science nous amène à nous prosterner devant celui qui connaît toutes choses et lui ouvrir notre trésor, c'est-à-dire notre cœur. Pour terminer, je cite ce passage de l'Épître aux Hébreux. « Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas comme Hérode. N'endurcissez pas votre cœur. Merci.